Evelyne Castellino, ce choc de musique que nous venons d'entendre, ni plus ni moins entre la musique baroque et une création fait maison, c'est le résultat d'une collaboration très régulière que vous avez avec le musicien Jacques Turcher. Et effectivement, avec 100% acrylique, vous collaborez bien avec d'autres gens aussi très régulièrement, comme avec Michel Faure pour les lumières et le décor, ou bien Nathalie Yagi, dont vous parliez tout à l'heure, pour l'écriture des textes.
Et oui, on a une fidélité, c'est-à-dire une équipe, c'est fait de ça. C'est fait d'une certaine fidélité qui fait que la connivence devient de mieux en mieux entre nous. Avec Jacques, par exemple, c'est vrai qu'on se comprend de mieux en mieux. On connaît bien nos défauts, on connaît bien nos qualités. Donc on a une collaboration qui est relativement claire. On sait ce qu'on peut attendre l'un de l'autre. Moi, j'ai l'habitude de faire des espèces de maquettes de musique, donc des maquettes du spectacle, où j'ai une petite table de mixage chez moi et je fais des recherches de musique. Et ensuite, les musiques que j'ai envie, qu'il me compose, je lui donne des pistes, je lui dis voilà ce que j'ai envie. Et puis, il essaye, il fait des choses qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas. Donc, c'est pas, disons que c'est pas tout de suite, ça vient, c'est pas une collaboration qui est tout de suite immédiate. Des fois, on tâtonne très très longtemps avant d'avoir ce qu'on a, ce que moi je veux et ce que lui a aussi envie de faire. Mais c'est vrai que pour les bandes son, il est fantastique. On passe des nuits au studio, mais on arrive, ça va bien, quoi. C'est une collaboration qui, plus les années passent, mieux on se comprend. Au niveau musical, dans ce qu'il compose, c'est des fois pas toujours, c'est pas toujours mon envie ou mon désir. Donc c'est pour ça que je lui donne des pistes. Et avec ces pistes, lui, après, il en fait quelque chose de personnel.
Et avec Michel Faure, c'est la même chose. Il y a cette même connivence au fur et à mesure des spectacles. C'est important pour les décors.
Oui, c'est important. Alors, parce que le décor, vous avez vu, on se sert beaucoup du décor. Il a toujours intérêt à faire un décor très solide parce qu'on va dedans, on saute dedans, on monte dedans. Dans tous les décors qu'il a fait, il nous a fait Maman encore un tour, qui était un immense échafaudage avec des photos. Il a fait la basket de Cendrillon, qui était un vaste parking avec un McDo. Et dans tous les décors, il sait qu'on va utiliser son décor, pas seulement comme une carte postale, une espèce d'emballage, mais vraiment comme un partenaire. Et avec Michel, on commence à discuter du spectacle très tôt. Quand on en est au début, aux élucubrations, des fois qui ne sont pas du tout ce que le spectacle sera. Et puis petit à petit, on a des idées qui arrivent. Et puis un jour, lui, il arrive avec une maquette. Et là, par exemple, on avait l'idée des fauteuils du début, mais on ne voulait pas du tout ce grand truc. On voulait une passerelle pour avoir un niveau différent. Et la forme de la salle de Patino, ça s'est avéré assez difficile de faire cette passerelle. Et un jour, dans la salle de répétition, pour avoir de la place, on avait entassé tous les fauteuils contre le mur et puis toutes les filles s'étaient mises dedans. Et j'ai dit, oh, mais c'est génial, ce serait bien de retrouver ça dans le décor. Et Michel, il s'est enthousiasmé pour cette idée et puis il a fait cette sculpture, cette maquette qui existe dans T-Time. Et après, une fois qu'on a été sur le plateau, alors on a commencé à utiliser le décor, quoi.
Donc ça, c'est, j'imagine, effectivement extrêmement précieux de ces interactions qu'il y a avec des gens qui, finalement, au fur et à mesure des travaux, se connaissent extrêmement bien. Alors, si on en vient maintenant très directement au spectacle présent, juste pour reparler de la musique, on l'a entendu, une confrontation entre la musique baroque et une musique très contemporaine, comme on vient d'entendre ce qu'a pu créer Jacques Turcher. Il arrive souvent qu'il y a à la fois une musique déjà écrite et puis une musique originale. Vous faites souvent ce mélange?
Oui, souvent. Souvent ce mélange, parce qu'un spectacle d'une heure, sauf si peut-être il y avait une rencontre, peut-être avec une création musicale qui peut être comme un coup de foudre ou une rencontre avec un musicien. Mais pour l'instant, avec Jacques, c'est pas vraiment ça. C'est un autre style de collaboration. J'aimerais une fois, en effet, qu'un musicien m'emmène dans son univers, plus que je l'emmène dans le mien. Thank you.
dans Maman encore un tour, nous sommes attachés à reconstituer une épopée humaine, écrivez-vous dans le programme du dernier spectacle, au cours de laquelle l'amour, la haine et la perte se déclinent à toutes les personnes et à tous les temps. Dans La basket de Cendrillon, nous avons traité l'univers du conte. Notre désir était de faire d'un passé éternel un présent qui s'enracine. Nous avons proposé pour ce spectacle un style opéra rock. Et c'est ce projet qui a beaucoup plu au Théâtre Amstramgram et qui a donc produit le spectacle. Et dans Tea Time, eh bien, nous mettons en scène la comédie des gens bien assis. Sujet scabreux dans un style libertin sur fond de musique baroque. Alors Evelyne Castellino, comment vous faites pour passer d'un sujet à un autre aussi, entier en soi et sautant d'un thème aussi important à un autre thème aussi important?
Bon, là, ça a été en effet très rapproché. Entre La basket et Tea Time, il y a eu peu de mois. Normalement, il y a plus de mois. Donc, il y a plus de temps pour s'imbiber de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Nous, c'est vrai qu'on a en fait une espèce de crainte qui vient. Moi, je suis très fervente et très fan de certaines compagnies que je vais voir. Et souvent, au bout de la quatrième ou cinquième création, je me dis, ils s'installent dans un style. Ils ont trouvé un truc et on peut exploiter un style peut-être très loin. Mais moi, j'aime toujours un artiste qui va me surprendre. Un artiste où je m'assieds dans le fauteuil et je me dis, mais qu'est-ce qui va me servir cette fois? Et c'est vrai qu'il y a des artistes comme ça que je suis et je suis chaque fois émerveillée. Enfin, je me dis, mais comment ils ont fait pour changer? Donc moi, j'ai cette démarche-là. Et quand on a fini un spectacle, ou même quand on est dans un spectacle, on s'embarque en pensée ou en lecture. Et des fois, c'est une chose tout à fait anodine. Ça peut être une lecture, ça peut être un petit flash à la télévision, ça peut être un film d'animation, ça peut être un reportage, ça peut être une émotion ou quelque chose qu'on vit. Et c'est un déclencheur. C'est un espèce de détonateur qui fait que tout à coup, j'écris un petit texte qui peut être une histoire, qui peut être une espèce d'environnement. À partir de là, généralement, je commence, je vais vers Pierre et vers Nathalie, qui écrit les textes, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, des fois, après, on discute les trois, puis ça change. On passe à une autre histoire, tous les trois, comme ça on dévie. Et pour La basket de Cendrillon, par exemple, ça s'est passé comme ça. Je voulais proposer quelque chose à Amstramgram et j'avais l'idée d'un autre conte qui me passionnait. Et il s'est révélé qu'avec l'aventure politique des dictateurs qui tombaient les uns après les autres, mon conte, je le trouvais plus bien dans l'atmosphère politique actuelle. J'ai dit, mais c'est plus bien de parler de ça, parce que ça parlait d'un dictateur. Je lui dis, mais j'ai plus envie de pied. Nathalie, elle dit, mais tu sais, on avait tout le temps envie de faire une fois une Cendrillon contemporaine. Et voilà, la Cendrillon est arrivée. Donc, pour vous dire, c'est dans une discussion qu'on s'est dit, ah ouais, pourquoi on ne proposerait pas Cendrillon? Qu'on a réfléchi à comment mettre cette Cendrillon dans un monde d'aujourd'hui. Et là, on s'est passionné. Pour Tea Time, on est parti, mais vraiment dans des pistes complètement différentes de ce que le spectacle est. On est parti dans une piste de polar. On voulait faire un polar. Mais si on cherche, on retrouve. On retrouve le secret, on retrouve le non-dit, on retrouve l'hypocrisie que dans un polar, il y a toujours ces espèces de moments, particulièrement dans les Agatha Christie, où il y a tous ces gens qui sont réunis, souvent dans des tea times, qui ont tous quelque chose à se reprocher, ou qui ont tous une méfiance vis-à-vis du voisin. Donc on essayait un petit peu de reporter ça, mais j'arrive même pas à me souvenir exactement comment tout à coup on est arrivé à relire les liaisons dangereuses, à se remettre dans cette atmosphère du 18e, qui était vraiment une période complètement libertine, où dans un certain milieu on n'avait pas besoin de se soucier de travail, on n'avait besoin que se soucier de nos journées, qu'est-ce qu'on allait en faire, qui on allait voir, de qui on allait parler, comment on allait s'habiller, dans un certain milieu, donc je dis bien.
Et pourquoi avoir envie, alors après deux films, longs métrages sur le thème des liaisons dangereuses, d'avoir envie de faire à vos tours un spectacle théâtre-danse sur ce thème-là?
Mais au début, ce n'était pas sur les liaisons dangereuses, c'est arrivé. C'est arrivé d'une façon insidieuse. Et c'est vrai que petit à petit, c'est devenu de plus en plus présent. Mais on a aussi, on s'est inspiré d'autres films aussi, pas seulement des liaisons dangereuses. Et c'était pas une volonté de départ dans ce spectacle. C'est arrivé comme ça parce qu'on est trois et qu'au fil des discussions, le sujet dévie et il arrive dans une certaine zone. Et des fois, tous les trois, on se passionne pour ce moment-là. Et je crois que c'est peut-être Nathalie qui nous a emmenés dans ce langage du 18e. Et puis, c'est comme ça que du polar, on est arrivé plus au secret, plus aux trucs sophistiqués et plus léger que ce qu'on voulait. De toute façon, on voulait un polar sans cadavre et sans Monsieur Poirot, quoi. On voulait un polar juste dans l'essence, quoi. Donc, finalement, un polar, on peut le mettre où on a envie de le mettre. Là, il y a vaguement une histoire d'un corps simonu sous vos yeux étendus. Donc, on peut imaginer que ce corps, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une petite qu'on a sacrifiée? Est-ce qu'on peut imaginer une chose secrète, enfin une chose un peu trouble, comme il y a souvent dans les polars?
Il y a d'ailleurs toutes sortes de mots qui nous viennent à la bouche, à l'esprit, lorsqu'on voit le spectacle. C'est le libertinage, ça c'est sûr, c'est très flagrant, c'est la frivolité, c'est le sexe très présent, ou la sensualité. Est-ce que c'est difficile de rendre le sensuel par la danse? Parce qu'en plus, comme vous avez des danseurs et des danseuses qui ont des âges très très différents, hein, des jeunes adolescentes et puis d'autres plus âgées, c'est dur, non, peut-être, de faire travailler tous ces gens qui ont des expériences de vie différentes sur un thème aussi si chatouilleux que celui de la sensualité?
Dans ce spectacle-là, les jeunes sont surtout les convoitées, celles qu'on regarde. Donc, ce n'est pas celles qui agissent.
Non, mais elles suscitent.
Elles suscitent, absolument. Ces jeunes filles en particulier, ces jeunes danseuses, je les connais depuis très très longtemps. Et on a une relation de discussion qui est toujours très intéressante ensemble. Donc, on a toujours parlé de beaucoup de choses. Donc, c'est pas des innocents. Probablement, elles sont plus si jeunes que ça. C'est pas des petites filles, entendons-nous. Donc, actuellement, je crois qu'à partir d'un certain âge, on est...
Mais qu'est-ce qu'elles ont, 16 ans, non?
Non. La plus jeune a 17 ans et c'est entre 17 et 22. Donc, c'est quand même des... Elles arrivent dans un âge où on parle de choses de sexe, de choses de sensualité. On a souvent eu des problèmes de parents qui ont divorcé. Il y a eu souvent un tas de choses dans la vie qui ont fait qu'on a mûri très vite. Et de plus en plus, on travaille avec des jeunes qui ont cette maturité-là. C'est notre époque qui fait que la jeunesse elle devient assez vite mûre. Et moi, je suis étonnée toujours d'avoir un plaisir inouï de discuter avec elles. Et je me censure pas. Je suis pas en train de me dire... Par contre, je vais pas leur demander certaines choses que peut-être je ferai dans un autre spectacle où elles seront pas là. Je me censure par rapport à une certaine pudeur qu'on a peut-être vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres. Mais pas dans les idées. Dans les idées, quand on parle du spectacle, je crois que j'ai pas de censure vis-à-vis d'elles. Et puis, ce spectacle, on effleure les choses. On ne va pas... Il ne me semble pas qu'on va dans des zones. On l'a voulu léger, on l'a voulu libertin. Et le libertinage a vraiment un côté où on effleure les choses. On peut dire des vacheries terrifiantes, mais comme ça, avec un petit sourire. On fait mal sans griffer, on fait mal en caressant. C'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire dans le spectacle. C'est aucun drame, on essaie de ne pas entrer dans le drame. Il y a peut-être ce couple que Pierre et moi on joue, qui est un couple plus pervers, où on voit qu'ils ont une espèce d'amour bizarre, qui est certainement très fort, mais qui est fait d'ingrédients relativement pervers. Nous, peut-être que c'est le couple plus trouble, les autres sont plus dans l'esprit du libertinage.
Et la convenance, parce que tea time, c'est le moment des convenances.
Voilà. Tea time, c'est la trêve, donc c'est le moment où tout s'arrête. Quoi qu'on fasse, on était peut-être complètement échevelés, ou on était en train de s'habiller, ou on était en train de parler de choses peut-être très crues. Et tout à coup, 4 heures sonnent, donc ça c'est une espèce de tradition anglaise, on s'assied, tea time, et on reprend, disons, les bonnes manières.
Et c'est un peu un refrain dans le spectacle.
Et c'est un refrain.
Ça revient souvent.
C'est le refrain de la trêve, du cessez-le-feu. Pendant un certain temps, on ne tire plus. Mais en fait, les balles perdues peuvent arriver au milieu de ces tea time. Donc, c'est ce c'est là qu'on retrouve un tout petit peu notre toute première inspiration qui était le polar. C'est qu'il suffit d'une balle perdue ou d'une caresse un peu trop prolongée ou d'un ressort de fauteuil qui nous rentre dans les fesses, ou je ne sais pas. Et tout à coup, les bonnes manières, qu'est-ce qu'on fait devant une situation qui change? Comment on agit? Nous, on nous a appris de bien nous tenir, de ne pas faire des grimaces à celui qui est en face alors qu'on aurait envie de lui en faire. De ne pas dire des gros mots n'importe quand. Enfin, on nous a appris un tas de bonnes manières. Et souvent, on a à l'intérieur de nous tout autre chose que ce qu'on montre. Donc, dans le spectacle, ce qu'on a essayé, c'était de temps en temps transposer cette réalité, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passerait à l'intérieur des gens.
Sacré enjeu pour exprimer ça par le geste.
Voilà. Donc ça nous donne justement l'occasion de faire évoluer une chorégraphie qui est assez précieuse, comme ça, qui est assez retenue. Et tout à coup, des choses se renversent ou on devient plus violent parce qu'on laisse aller ce qu'on a à l'intérieur de nous. Tout à coup, les crinolines tombent et il y a d'autres choses qui se passent.
Et c'est un hasard, Evelyne Castellino, que pour cette création-là, il y a beaucoup de femmes et trois hommes seulement. Alors que je n'ai pas vu malheureusement la basket de Cendrillon, mais demain encore un tour, il y avait plus d'hommes.
Cinq hommes, quatre. Oui. C'est absolument dû au hasard des choses, c'est-à-dire que la compagnie, on est cinq hommes et quatre femmes, normalement. Cette création, il se trouvait que deux des hommes étaient pris dans une autre pièce à Lausanne. Et avec une tournée qui faisait qu'il ne pouvait pas faire celle-là. On revient à notre toute première question, comment faites-vous pour garder un groupe? Jusqu'à présent, on a toujours réussi, mais là, c'est l'exemple vraiment clair que là, on n'a pas réussi parce que je ne pouvais pas les payer. Donc, ils doivent accepter d'autres contrats. Et de ce fait-là, voilà, il y en a deux qui manquent. Donc, j'avais le choix, soit de me dire, je cherche d'autres gens. Et je suis partie dans des conditions financières terrifiantes avec cette pièce. Donc, on avait 0 francs, 0 centimes au départ, même quand on a commencé les répétitions. Donc, ce qui était, on s'est rencontrés, toute l'équipe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? On avait la plage à Patineau. On s'est dit, quand on est une compagnie indépendante, c'est très difficile d'avoir des plages de programmation dans des lieux. On est tellement dépendant et des subventionneurs et des programmateurs. Donc là, on n'avait pas les subventionneurs, on avait les programmateurs. Et on a dit, on se lance, on va voir. Alors moi, j'ai continué à me battre et j'ai finalement obtenu de l'argent. Pas autant que j'aurais voulu, mais j'en ai obtenu. Donc la création s'est faite comme ça, en cours de répétition. Je devais louer des costumes. Je me disais, j'aurais jamais l'argent pour payer une costumière. Finalement, comme j'ai eu de l'argent, en catastrophe, j'ai engagé Marie Baronne, qui a fait des miracles en 15 jours, parce qu'elle a fait ses costumes qui sont très, très beaux, une vitesse folle. Et je ne me souviens plus du début de la question. Qu'est-ce que c'était au début? J'ai dévié.
Pourquoi trois hommes et tant de jeunes femmes?
Ça y est. Et de ce fait-là, comme j'avais pas des conditions financières fantastiques, c'était difficile pour moi de chercher des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont d'accord de travailler comme ça, dans ces conditions-là, mais parce qu'ils connaissent l'équipe, parce qu'ils font une espèce de confiance, parce qu'ils ont envie que ça ne s'arrête pas. Mais des nouveaux. Les nouveaux, il faut quand même leur proposer un petit quelque chose. Donc là, j'avais pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre les jeunes, puisque j'avais besoin d'un casting de jeunes. Donc j'ai dit, je vais les prendre à cette occasion-là. Puis c'est fait que ça a fait beaucoup de femmes par rapport aux trois hommes. Mais ce n'est pas du tout une volonté de départ. C'est les circonstances économiques.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, Evelyne Castellino. Je crois qu'effectivement, par la discussion que nous avons eue là, on a eu l'occasion de découvrir aussi bien ce que c'est que la création au niveau du fond et puis les difficultés, ce que ça signifie au niveau matériel. Ce qu'effectivement, on devrait souvent savoir avant d'aller voir un spectacle. Je pense que ça vaudrait la peine que plus de gens le sachent. Alors, on peut peut-être répéter donc que le spectacle ne joue malheureusement, n'est présenté qu'une semaine. C'est jusqu'au samedi 7 novembre.
Dimanche 8,
à la salle Patineau à Genève à 21h.
Et dimanche à 19h.
Voilà. Alors, il faut vous empresser d'aller voir le spectacle, puisqu'une semaine, c'est court, c'est dans les temps occupés que tout le monde a, nous croyons, mais ça fait rien, il faut y aller. Et puis, rappelons que Evelyne Castellino et Pierre Mifsud sont les scénaristes et chorégraphes du spectacle. Tous les deux dansent et parlent, puisqu'on parle et on danse dans les spectacles de 100% acrylique. La distribution est très longue, je ne vous dirai pas les noms de tout le monde. Désolée pour les danseuses et les danseurs. Et la musique que nous avons entendue tout au long de nos discussions, eh bien, c'est soit de la musique baroque de Boccherini, Scarlatti, Rameau, parfois aussi Hind et Mercadante que nous allons entendre juste maintenant, ou bien une création de Jacques Turcher, comme vous avez entendu tout à l'heure. Au revoir Evelyne.
Au revoir, merci.
En douceur, la fin de la musique extraite du spectacle Tea Time, Mercadante. Et je vous propose un choc musical. Bon, ma foi, il faut s'essayer à toutes sortes de choses. Eh bien, c'est la rencontre aussi choc de Freddie Mercury et de Cavalier Montserrat.
Barcelona! Barcelona!
Calling us.
Yo aki ga yo bika keru, kokono izumi ga wa